6h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Stéphane Bern.
Le journal inattendu.
Comme chaque année, je vous invite à partir en voyage à la découverte de 14 villages.
Louis XIV est le plus flamboyant des rois de France. Partout dans le monde, il est le roi soleil.
Pour ce loto patrimoine, on va s'approprier notre patrimoine, on va le sauver.
12h30, 13h30.
C'est l'heure.
C'est la bonne heure.
Tombe bien.
Stéphane Bern est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous. C'est drôle d'être là le samedi.
Ah bah oui, j'imagine que vous n'êtes pas trop dépaysé dans
non,
ce
non,
studio.
Non, je connais bien.
Qui n'est pas celui d'À la bonne heure.
Non, c'est celui de la matinale.
Exactement, et de l'info en général. Merci de passer cette heure avec nous aux commandes de Journal Inattendu, qui sera bien sûr, et vous le comprenez, en partie consacré à la disparition de Jacques Chirac avant-hier. On va parler de l'hommage populaire de demain, des cérémonies de lundi, que vous commenterez d'ailleurs sur RTL, mais aussi de l'émotion qui a frappé le pays jeudi, comme des liens que vous avez peut-être tissés vous-même avec la famille Chirac. On va aussi percer quelques secrets, comme vous aimez tant le faire avec les grands personnages de notre histoire. Alors, il y aura de quoi dire, hein, entre la radio, l'édition, le loto du patrimoine et maintenant le théâtre, puisque vous serez seul sur scène à partir du 14 octobre pour « Vous n'aurez pas le dernier mot » de Diane Ducret. Évidemment, on va en parler, mais pour clore cette présentation et avant les infos, vous allez l'avoir, le dernier mot maintenant, puisqu'il faut vous tirer le portrait.
Ah, c'est l'autoportrait.
Exactement, c'est l'heure.
Qui peut prétendre se connaître soi-même? Cela prend une vie pour tenter de se comprendre et surtout de résoudre ses propres contradictions. Difficile, en fait, de m'enfermer dans un seul registre d'activité, tant elles sont multiples. Je suis à la fois journaliste de presse écrite, écrivain, présentateur télé de Secrets d'Histoire ou Le Village Préféré des Français, Laissez-vous guider ou La Fabuleuse Histoire, mais aussi animateur radio avec À la bonne heure tous les jours de la semaine sur cette antenne d'RTL, producteur, comédien, j'ai déjà joué en 2005 au théâtre la pièce de Jean-Marie Chevret, numéro complémentaire, c'était au Théâtre Saint-Georges. Et j'ai surtout incarné un gendarme dans la fiction TV pour France 3, Meurtre en Lorraine. Bref, je croque avec gourmandise toutes les possibilités que m'offrent les différents médias. Si je suis, faut le rappeler, dans le top 10 des animateurs préférés des Français, bon, c'est parce que je ressemble à personne. D'ailleurs, je ne connais personne qui a vraiment envie de me ressembler. Avec cette voix particulière, ce phrasé légèrement empoulé, cette manière de présenter les émissions qui donne du grain à moudre aux imitateurs patentés. On me dit inclassable car je suis une chose et son contraire. On me croit le gendre idéal, mais en fait je suis iconoclaste et baroque. Je semble sage et pourtant rétif à la discipline. Je plais aux conservateurs, mais j'ai une tendance révolutionnaire. Un jour on me dit ami des présidents, le lendemain on prétend que je préfère les rois, on m'imagine toujours dans les beaux quartiers alors que je vis à Pigalle, dans le Paris coquin, bref, je ne suis jamais là où on m'attend. Et ce que j'aime le plus dans la vie, explorer des univers différents et me mettre en danger. Et surtout j'adore me rendre utile aux autres et à mon pays. C'est pourquoi j'ai accepté une mission patrimoine pour recenser et trouver le financement pour sauver les monuments en péril. À mon âge, on commence à se préoccuper du ravalement de façade, c'est normal. Et pour réunir toutes mes passions, l'histoire, le patrimoine, les figures d'illustrer le théâtre, Diane Ducret a devancé mon désir de remonter sur scène en m'écrivant un texte plein de saveur entre humour et émotion sur les derniers mots des écrivains et des figures historiques, car c'est important de tirer sa révérence avec élégance et finesse. Voilà pourquoi je charge un peu plus la barque de mes activités, sachant que seule la passion me guide et l'envie de la partager avec le public.
Alors la barque est effectivement bien garnie, ce qui est certain c'est qu'effectivement vous êtes unique, contradictoire, c'est vrai.
Très.
Et c'est pour ça qu'on aime vous recevoir aujourd'hui dans le journal inattendu. On commence par l'actualité de ce samedi 28 septembre. Les premières plaintes après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen éteint hier matin. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, reconnaît une pollution à la suie. Mais Europe Écologie des Verts parle du plus grave accident industriel en France depuis AZF. Les derniers préparatifs pour les cérémonies de dimanche et lundi en hommage à Jacques Chirac. Nous irons à Tulle, en Corrèze, où l'émotion reste très forte. Un couac hier soir à Bercy, la minute de silence pour l'ancien président a été sifflé et perturbé par des supporters serbes lors de la demi-finale de l'Europe de handball. La Serbie qui a battu la France, d'ailleurs, les Bleus jouent la petite finale à 18h face à la Pologne. La Coupe du monde de rugby est un exploit puisque le Japon a battu aujourd'hui le Pays de Galles, l'un des favoris. Le foot, le début de l'Irlande, pardon. Le foot, début de la 7e journée de Ligue 1 à 13h30. Lyon-Nantes à 10h30, à 17h30, Bordeaux-Paris-Saint-Germain. Et puis le temps, Anthony Kazmarek, avec du soleil au sud et plus de nuages au nord aujourd'hui.
Effectivement, Vincent, bonjour à tous. Plein soleil dans le sud avec une exception, des entrées maritimes entre les Pyrénées-Orientales et le Midi toulousain. Au nord, de plus en plus d'éclaircies. Ça a du mal à percer hein, pour l'instant ce matin. Il y en aura de plus en plus en cours de journée, avec cependant encore des nuages sur les Hauts-de-France, avec un risque d'averse et d'autres nuages qui arrivent par la Bretagne, prémisse de l'arrivée de la pluie pour demain, des pluies qui seront assez conséquentes. Les températures cet après-midi, elles sont de saison, avec 18 degrés à Lille, 20 à Paris et Strasbourg, 22 à Bordeaux, 25 à Toulouse et jusqu'à 28 à Nîmes.
Stéphane Bern, vous qui avez tout fait ou presque dans la vie, est-ce que vous avez déjà présenté la météo ?
Jamais, non. Oh je l'ai fait une fois à la télévision, c'était pour parce que c'est très compliqué, il faut faire des gestes, il faut déjà bien connaître sa géographie.
Ouais, oui, c'est vrai.
Il ne faut pas se tromper. Hein. La Bretagne, il faut savoir où elle est.
Ouais, bon, normalement, elle est vers.
Oui, je sais, mais
à la gauche,
mais
quand vous êtes à la télé, voilà, c'est vert, à l'inverse.
C'est très compliqué sur fond vert.
Bon, en tout cas, vous allez le faire à la radio.
Ah, super.
Ça sera dans une petite demi-heure.
Ah, très bien.
Courage. Le journal inattendu sur RTL.
L'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen et la pollution qui a suivi ont été évidemment éclipsés avant-hier par l'annonce de la disparition de Jacques Chirac. Mais sur place, les milliers d'habitants concernés affichent aujourd'hui leur inquiétude. Agnès Buzyn a d'ailleurs reconnu une pollution à la suie, mais la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, assure qu'aucun polluant anormal n'a été retrouvé dans les prélèvements effectués. Et pourtant, comme vous le révélait RTL dès ce matin, 8 habitants de l'agglomération ont d'ores et déjà décidé de porter plainte contre X, Julien Caillard.
Oui, 8 particuliers qui s'apprêtent à porter plainte avec constitution de partie civile. En réalité, il s'agit pour chacun d'entre eux de déposer 2 plaintes contre X, leur avocat Maître Jonas Haddad.
Le premier dommage, c'est le dommage corporel à autrui par manquement à une obligation de sécurité. C'est un article du Code pénal et qui prévoit 2 ans d'emprisonnement. Il y a également un article du Code de l'environnement qui prévoit que des rejets ayant entraîné des effets nuisibles sur la santé est puni également de 2 ans d'emprisonnement. Il y a donc des fondements légaux qui nous permettent aujourd'hui de déposer plainte pour le compte des plaignants qui sont venus nous contacter.
Parmi ces plaignants, il y a un homme de 46 ans qui, pris de vertige, a chuté. Il a été blessé au front. Un arrêt de travail lui a été prescrit. Il y a cet habitant de l'agglomération qui estime que ses enfants ont ingéré de la suie d'hydrocarbures déposée dans le jardin. Et puis, il y a aussi cette Rouennaise qui évoque la mort de poissons dans un étang. La liste de ces plaignants qui devrait très vite s'allonger. Un autre avocat de Rouen me confiait tout à l'heure que des particuliers avaient pris rendez-vous avec lui en début de semaine prochaine pour à leur tour porter plainte.
Julien Caillard à Rouen pour RTL a noté que le directeur de l'usine s'est interrogé ce matin sur RTL sur le caractère accidentel de cet incendie. À Nancy, 500 policiers mobilisés aujourd'hui autour d'une manifestation anti-nucléaire contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs de Bure, défilé auquel des gilets jaunes auraient prévu de se joindre. Hier soir, un groupe de personnes encagoulées, sans doute des Black Blocs, s'en est pris à la porte d'entrée du centre pénitentiaire de la ville à coups de marteau. La façade a été taguée. Et puis un trafic international de médicaments falsifiés a été démantelé en Gironde. Un patron de labo, son directeur scientifique, son épouse ont été interpellés. Ils démarchaient eux-mêmes des patients atteints de sclérose en plaques et leur proposaient un traitement à 400 euros par mois. Des centaines de victimes ont été identifiées. Je vous vois tiquer en entendant ce genre d'infos.
Oui, c'est horrible. Profiter de la faiblesse, la maladie des autres pour s'imposer, pour faire de l'argent. Quoi,
ah bah là, c'est clairement pour ça. Ce que je vous propose, Stéphane, marquez une courte pause et puis dans un instant, évoquez cette France qui se prépare à rendre hommage à Jacques Chirac. À tout de suite.
Le journal inattendu de Stéphane Bern avec Vincent Parisot sur RTL.
Cérémonie populaire aux Invalides, demain dimanche, deuil national, cérémonie religieuse à Saint-Sulpice, lundi avec minute de silence dans les écoles et les administrations. La France donc se prépare à rendre hommage à Jacques Chirac. Le gendre de l'ancien président, Frédéric Salabarou, a précisé donc que demain, à partir de 14h, tous ceux qui l'ont aimé pourront venir se recueillir autour du cercueil de Jacques Chirac sous le dôme des Invalides. On y reviendra dans un instant, Stéphane, mais je voudrais qu'on aille en Corrèze, sa terre d'élection, où un hommage particulier lui sera rendu le week-end prochain. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous l'imaginez bien, Stéphane, sur le marché de Tulle, les producteurs que Philippe de Maria a rencontrés avaient tous une pensée pour Jacques Chirac.
Oui, le marché de Tulle regorge encore de fraises magnifiques, de somptueux fromages du Cantal. Elles nous font saliver et sur son stand, Émilie a affiché un slogan des Guignols qui a bien servi Chirac dans sa campagne de 95. Souvenez-vous, mangez des pommes. Émilie est productrice de pommes, justement, la trentaine et pourtant fan de Chirac.
Monsieur Chirac était quelqu'un très important pour les agriculteurs en Corrèze et tout autour. Et il a fait beaucoup de choses pour aider les agriculteurs aujourd'hui et ça devient de plus en plus compliqué dans le monde agricole.
Un peu plus loin, Pierre, producteur bio, propose ses melons. Alors on se dit, producteur bio, pas forcément en phase avec Chirac, qui soutenait, on va dire, une agriculture plus conventionnelle, bien, pas du tout.
Moi, je suis aussi originaire d'ici, donc de Haute-Corrèze, et puis Chirac, il fait partie humainement, en tant qu'homme, de notre histoire. Il était proche de la terre, il était proche des gens. Voilà, mes parents en parlaient, la famille en parlait, on a pris les routes qu'a fait construire Chirac, on a vu l'aérodrome qu'a fait Chirac. Pour nous, ça fait partie de notre histoire. Mais plus que ça, je pense qu'il était proche des gens et qu'il savait comprendre les gens et qu'il savait aller vers eux. Et à chaque fois, c'était très honnête.
Voilà Jacques Chirac, très présent dans la mémoire de ses producteurs locaux ici au marché de Tulle, en Corrèze.
Philippe Demaria, Tulle pour RTL. Stéphane, l'hommage à Jacques Chirac va donc se faire en deux temps. Demain, cérémonie populaire aux Invalides, sous le dôme des Invalides, avec le cercueil de l'ancien président. Et lundi, le deuil national, la cérémonie religieuse à Saint-Sulpice. C'est la règle.
Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle en la matière. Ouais. Sauf dans le cas d'un chef de l'État qui meurt en fonction. C'est un ancien président de la République. Le précédent, c'était François Mitterrand. Et qui, lui, ne voulait pas se faire enterrer à Paris, comme vous le savez. Là, c'est la première fois qu'un président de la République va d'ailleurs se faire enterrer à Paris. Je trouve que c'est une bonne chose. Il a été longtemps le maire de Paris. C'est bien qu'il. D'abord, il veut être inhumé aux côtés de, sa fille, Laurence, au cimetière Montparnasse. Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a un hommage de la nation. C'est vrai que les Invalides, c'est en général l'endroit où on peut rendre l'hommage à la nation. En général, le chef de l'État vient rendre des hommages dans la cour d'honneur des Invalides. Ce qui est plus inhabituel, c'est de le faire sous le dôme, là où, a priori,
là où
il y a Napoléon.
Ouais. Occupé.
Oui, mais il y a quand même la place. Il y a tous les maréchaux. Ouais. Et puis, vous savez, d'une certaine manière, il est le continuateur de Napoléon. Il est 22e président de la République. Il s'inscrit dans la tradition des chefs d'État qui ont dirigé notre pays. Donc, il n'y a rien à redire. Maintenant, le problème se pose parce qu'il n'y a plus la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, l'édifice religieux le plus important pour l'hommage solennel de la nation et pour lui faire une messe d'obsèques, et c'est Monseigneur Petit, l'archevêque de Paris qui la célébrera, c'est Saint-Sulpice. Et donc, voilà, c'est ce qui différencie un peu les choses. Et là, il y aura les chefs d'État qui l'ont connu, les chefs d'État qui l'ont aimé. Voilà, il y aura sans doute les chefs
des têtes couronnées.
Des têtes couronnées, forcément. Je sais que le grand-duc et la grande-duchesse de Luxembourg seront là, sans doute le prince Albert de Monaco. Il y aura aussi oui, je pense que toutes les monarchies européennes vont déléguer une personnalité. Je ne sais pas qui la cour d'Angleterre va dépêcher, mais ça sera certainement de bon niveau dans le protocole, j'allais dire. Pourquoi ? Parce que c'était il avait des relations extrêmement cordiales. Juncker était très proche de lui, les premiers ministres belges. Je pense que la cour de Belgique va envoyer aussi quelqu'un d'important.
Et je rappelle que vous commenterez ici avec Thomas Soto et Christelle Rebière.
Lundi midi,
cette cérémonie religieuse. Un mot du deuil, de la minute de silence dans les écoles, les administrations. Je disais, dans les écoles, est-ce que ça vous paraît judicieux auprès des enfants de primaire qui sans doute, j'imagine, ne doivent même pas savoir...
Faire le silence dans une école primaire.
Oui, non, je plaisante. Ça fait du bien une minute.
Mais plus sérieusement, est-ce que vous ne croyez pas que c'est peut-être l'occasion ? Tout dépend. Si vous faites une minute de silence qui ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais si ça permet ensuite à la maîtresse ou au maître d'expliquer qui était Jacques Chirac, peut-être de faire un cours d'instruction civique qui permet de rappeler les présidents de la République, le rôle. C'est aussi celui qui a institué le quinquennat. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins ça permet de dire un mot sur les institutions et de rendre hommage au président Jacques Chirac, qui était un grand président.
Eh bien tiens, justement, en parlant de cet hommage et de la minute de silence, cette info va sans doute vous faire réagir. Ça s'est passé hier soir à Bercy, avant la demi-finale de l'Euro de volleyball entre la France et la Serbie. Minute de silence perturbé par des supporters serbes. Et vous y étiez, Isabelle Langer. Ils ont bruyamment manifesté leur colère.
Oui, vous savez, c'est arrivé dès les premières secondes de cette minute de silence. Des sifflets se sont élevés depuis la tribune haute où était installée une partie des supporters serbes. Dans la salle, c'était la stupeur. Le public, comme les joueurs, n'ont pas compris pourquoi. À la fin de la rencontre, Laurent Tilly, le sélectionneur des Bleus, a d'ailleurs préféré croire que c'était de l'ignorance.
C'est pas terrible comme image. On va dire qu'ils ont peut-être pas compris.
Si ce n'est que les supporters serbes savaient très bien ce qu'ils faisaient, en témoigne la banderole qu'ils ont déployée sur laquelle était écrit « Le Kosovo, c'est la Serbie ». Ils ont aussi crié « Ils nous ont bombardés » et d'autres ont scandé « Terroristes, terroristes ». Ils visaient ainsi directement Jacques Chirac, qui était président de la République en 1999, quand la France avait participé avec l'OTAN à la guerre du Kosovo, qui s'était soldée par une défaite pour l'armée serbe. Pour Benjamin Tognotti, le capitaine des Bleus, quelles que soient les revendications des supporters serbes hier soir, elle n'avait rien à faire dans l'enceinte de Bercy.
C'est pas du tout l'image du volet et c'est vrai qu'on a eu des petits mots d'excuses des joueurs serbes sous le filet par rapport à ça.
D'ailleurs, sitôt cette minute de silence terminée, bien les supporters serbes ont rangé leur banderole, profité du match et de la victoire de leur équipe.
Ah oui, puisque c'est la Serbie qui a gagné. Commentaire, Stéphane Bern.
C'est difficile. Vous savez, on a nié l'histoire avec la Serbie. On a commis beaucoup de faux pas. Les Serbes étaient nos alliés pendant la Première Guerre mondiale et ce sont d'ailleurs proportionnellement par rapport à la population ceux qui ont payé le plus lourd tribut à la Première Guerre mondiale. Et on les a abandonnés. Il faut se souvenir de Franche et d'Espéré, de tous ces nos généraux qui étaient aux côtés des Serbes. Donc, je peux comprendre maintenant les minutes de silence. C'est bien de les respecter. Voilà. Je trouve que là, il faut un peu de dignité et oublier les blessures du passé.
Qu'est-ce que je dois vous dire? Que les Bleus, du coup, joueront la petite finale pour la troisième place tout à l'heure à 18h face à la Pologne. Quand la Coupe du Monde de rugby, alors là, grosse sensation ce matin avec la victoire du Japon, pays organisateur, sur l'un des favoris, l'Irlande, 19-12. Et puis qu'il y a du football, ça je sais que vous adorez le foot, Stéphane, septième journée de Ligue 1.
Quand il y a Lyon qui joue, oui,
ça tombe bien. 13h30, Lyon-Nantes, voilà. Pourquoi cet horaire? Parce que c'est diffusé en Chine. 17h30, Bordeaux-Paris-Saint-Germain. Ce soir, 6 matchs dans le multiplex RTL Le Parisien, aujourd'hui en France.
Le reportage inattendu.
Reportage que vous nous avez demandé concernant notre alimentation. Vous avez voulu en savoir plus sur les élevages intensifs de poulets, ce qu'on appelle les élevages en batterie. Donc on a demandé à l'une de nos spécialistes d'enquêter. C'est vrai qu'en ce moment, entre les élevages libérés par les militants radicaux, la décision du gouvernement sur l'usage des pesticides près des habitations, on va dire que les agriculteurs se sentent mal aimés, au point que certains ne veulent même plus ouvrir leurs portes aux journalistes. Et même ceux qui essayent d'améliorer leur pratique aujourd'hui le regrettent. Je vous propose d'écouter ce reportage avec une éleveuse de poulets proche du Mans, Anne Lehenaf.
À chaque fois, Isabelle frappe avant d'entrer.
Parce que mes animaux, je les respecte. Je les préviens que je rentre dans leur espace, dans leur maison.
C'est un immense hangar ventilé. 19 000 petits poulets blancs s'y ébattent sur un sol de paille. Ils venaient d'éclore lorsqu'ils sont arrivés.
Et ils ont 3 semaines.
Dans un peu plus d'un mois, ils partiront à l'abattoir à 56 jours pour être transformés en escalopes, celles que vous trouverez sous vide dans vos supermarchés. Isabelle, yeux verts, cheveux aussi courts que bruns, a repris et agrandi l'élevage de ses parents. 50 000 volailles grandissent dans 3 hangars. De l'élevage intensif, industriel, même si ces mots la font grimacer.
J'aime pas industriel, parce qu'on ne fabrique pas des boulons ici. On fabrique de l'animal, de la viande. C'est du poulet standard, du quotidien, on dit. Oui, moi je persiste à dire que j'aime mes animaux. Quand le camion est chargé et qu'il part de la cour, ouais, on a un petit pincement.
Pour que ces poulets grandissent dans de meilleures conditions, elle a emprunté 150 000 euros. Pour moderniser le poulailler voisin.
On a refait donc l'isolation. L'été, comme sur les terrasses de café, nos poulets sont brumisés. En pleine canicule, on était mieux dans le poulailler qu'à la maison. Ils ont la lumière naturelle. Il y a des fenêtres qui se ferment le soir avec un volet roulant comme à la maison. Nous, on a fait le choix de répondre, je l'espère, aux attentes vraiment du consommateur. On est quand même un petit peu amendé par rapport à nos méthodes d'élevage. Même si on les faisait bien, on a le devoir encore de s'améliorer.
Mais le climat actuel la plombe, d'autant plus que la France importe 40% de ses poulets. C'est même 80% dans les restaurants ou les cantines.
Alerte, parce que nous, on veut bien faire encore mieux, toujours mieux, mais consommons nos produits. à un moment, je veux dire, on ne va pas y arriver, c'est plus possible. Eh bien, on la vit mal, l'ambiance actuelle. Ça commence à peser quand même. Eh bien, ouais, bizarrement, je me trouve à avoir des moments de doute. Et ça, c'est pas bon dans un métier. Alors, il y a une façon de voir les choses. Quand on doute, on progresse aussi. Parce que le doute nous pousse. Si j'avais pas eu le doute à un moment, on aurait peut-être pas fait ces travaux-là aussi. Mais on sera peut-être pris hein, dans la spirale, nous, hein, un jour, si ça continue.
Et signe de la méfiance grandissante dans le monde agricole, voire d'une certaine crainte, Isabelle préfère qu'on ne donne pas son nom de famille à la radio.
En tout cas, on va donner le vôtre, Anne Le Hénaff, pour ce reportage. On entend cette productrice, donc élevage intensif, mais elle dit « je fais des efforts ».
Mais oui, mais c'est formidable, il faut les encourager. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer tout le monde. Je trouve qu'on est dans un climat délétère, il y a à la fois il y a de l'intolérance de part et d'autre, il y a une incompréhension, je comprends, moi je suis du côté des paysans et des agriculteurs, je me mets à leur place, c'est difficile. Il faut aller vers une transition écologique de ce côté-là aussi, mais on n'est pas obligé de leur de brûler des restaurants, de brûler des exploitations, de les empêcher de faire leur travail. Il faut peut-être convaincre l'opinion publique, parce que c'est vrai que ça passe aussi par... On est des consommateurs citoyens, on paye avec notre carte de crédit et on peut aussi choisir. C'est de... Peut-être faut-il manger un peu moins de viande, un peu moins de poulet, mais en manger un meilleur, qui a été élevé en plein air. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit poulailler, j'ai 12 poules, j'ai des œufs frais, mais si vous voulez, je pourrais pas tuer une poule, je suis incapable de tuer un animal, donc je pourrais pas, mais elle a besoin, cette agricultrice a besoin de vivre, a besoin de travailler, mais peut-être faut aller vers défendre le bien-être animal. J'ai participé évidemment à la campagne de L214, dont je suis une sorte de parrain aussi parmi d'autres. C'est vrai que je suis pour qu'on défende le bien-être animal.
Vous savez qu'on va être très en retard. Hein,
pardon.
Vous êtes bavard.
Oui, mais il faut me couper.
Alors je vous coupe, on marque une pause et dans un instant, eh bien, on parle de vous au théâtre. Bientôt, vous n'aurez pas le dernier mot. Si, je vous assure.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Stéphane Bern avec Vincent Parisot sur RTL.
Vous n'aurez pas le dernier mot, Stéphane. C'est le titre de la pièce de Diane Ducret. Vous allez jouer seule en scène à partir du 14 octobre au Théâtre Montparnasse. C'est un texte sur les dernières paroles de quelques grands hommes, c'est ça, avant de mourir?
Des écrivains, des personnalités, Coco Chanel, La Calasse, etc.
C'est voilà, on a un petit problème de son, là. Que se passe-t-il? Je ne sais pas.
Il y a un écho. C'est peut-être l'autre tombe qui nous fait des signes.
Alors, oui.
En fait, ce sont les personnalités. Diane Ducret a imaginé, enfin, a collecté au fond tous les propos qui ont été tenus par les uns et les autres.
Ouais.
Et elle en a fait une pièce qui est à la fois tendre, drôle, émouvante parfois. Et c'est vrai qu'on s'intéresse à les derniers mots. Parce que tirer sa révérence, c'est compliqué.
Ouais.
Peut-être, il y a les testaments, on écrit des choses pour l'avenir. Mais là, on n'y pense pas. Par exemple, Flaubert dit « Quand je pense que cette salope de Madame Bovary va survivre et quand je vais mourir. » Et puis, Voltaire, je trouve ça drôle, ouais. Voltaire, il dit « S'il me venait un bon mot, une bonne idée, ben je m'arrêterais de mourir. » C'est ses dernières paroles. Ou ouais. Oscar Wilde qui voit le papier peint, il dit « Ou c'est le papier peint qui disparaît ou c'est moi qui meurs ?»
Il y en a un de trop entre nous dans cette pièce.
Je trouve ça drôle. Ouais. Certains avaient de l'humour, avaient de l'esprit et la Calasse, elle est pas bien, elle dit « Oh, je me sens pas bien. » Puis au fond, sa dame de compagnie se précipite « Je vous avais bien dit que je suis pas bien. » Et puis elle meurt.
C'est formidable.
Donc je trouve c'est un peu d'esprit, honnêtement. Alors ça n'a rien de mortifère, c'est pas sombre. Puis Diane Ducret est une fille formidable qui a fait un texte, c'est mis en scène par Jérémy Lippmann, et puis moi c'est une causerie comme ça, j'ai envie de m'intéresser, de faire un peu de philosophie de bout de
puis vous avez envie de faire l'acteur.
J'adore jouer, j'ai joué en 2005, j'avais envie de remonter sur scène. Bon là je suis seul, mais avec le public, donc c'est sympa.
Donc il fait l'acteur, Stéphane Bern, la radio, la télé, le loto du patrimoine, les livres, j'en passe et des meilleurs. Vous ne procrastinez pas.
Hein. Non.
C'est pour ça que vous avez choisi cette réplique du très beau film de Rémy Besançon, Le premier jour du reste de ta vie.
T'as envoyé tes lettres de motivation ?
Demain.
Raph, est-ce que tu connais le sens du mot procrastination ?
Aucun.
Procrastination, c'est la tendance pathologique à tout remettre systématiquement au lendemain. Tu peux pas toujours tout remettre au lendemain, mon chéri. Parce qu'un jour, t'auras tellement de trucs à faire demain que le reste de ta vie n'y suffira pas.
Donc vous ne remettez pas au lendemain.
Non, il faut remplir chacun de nos jours.
Mais comment vous faites pour arriver à tout faire,
la
à gérer
passion,
votre emploi?
C'est un moteur, la passion. Ouais, moi, je m'organise.
Non, non, vous avez une botte secrète.
Non,
si. Elle s'appelle Ségolène.
Ah, Ségolène,
je suis effectivement la femme de l'ombre et ça me va très bien. Stéphane est quelqu'un qui accepte beaucoup de choses. Donc, c'est un peu comme le Tetris. J'ai une ossature à la base. Je sais à peu près ce qui va se passer dans l'année. Et tous les jours, il y a des demandes, il y a des projets qui tombent. Mais on en arrive là aujourd'hui à un point où il faudrait soit deux Stéphane, soit effectivement que les journées soient plus longues. Après, je prends parfois la décision de dire non et de lui imposer. C'est pas pour l'empêcher de faire de nouveaux projets ou... Mais oui, j'essaye de le protéger de cette façon-là.
Vous devez être au courant, j'allais dire, de petits secrets de Stéphane Bern.
Mais oui, je suis au courant de plein de choses.
Mais vous ne direz rien, si j'ai bien compris.
Je ne dirai rien.
Pourtant, c'était tentant.
Oui, c'est tentant. Oui.
Bon, voilà, c'est votre femme de l'ombre.
Mais oui, c'est ma collaboratrice la plus proche. Mais c'est vrai qu'elle essaie de me protéger, mais je dis toujours oui. Et de temps en temps, je reprends la main sur l'agenda, ça la rend dingue, j'accepte. Mais vous savez, dès qu'il y a un événement que tout le monde m'appelle et moi je sais pas dire non. Alors...
Bah vous lui devez d'arriver à l'heure à l'antenne notamment, oui. Et en parlant d'heure, nous on est très en retard. Il est un petit
c'est
peu plus
de
13h. Oui, enfin c'est partagé. Allez, à tout de suite, le rappel de l'info. RTL. Oui, vous êtes bien sur RTL.
Journal inattendu de Stéphane Bern.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Avec les premières plaintes après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, éteint hier matin, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, reconnaît une pollution à la suie. Pour Europe Écologie des Verts, c'est le plus grave accident industriel en France depuis AZF. Ce matin sur RTL, le directeur de l'usine s'est interrogé sur le caractère accidentel de l'incendie. Les derniers préparatifs à Paris pour les cérémonies de dimanche et lundi en hommage à Jacques Chirac. Demain, hommage populaire aux Invalides. À partir de 14h, les Français pourront venir se recueillir devant son cercueil, sous le dôme des Invalides. Lundi, deuil national, une minute de silence dans les écoles et les administrations. Le service religieux pour lequel de nombreuses personnalités sont attendues aura lieu en l'église Saint-Sulpice à Paris. Un couac hier soir à Bercy, la minute de silence pour l'ancien président a été sifflée et perturbée par des supporters serbes, la Serbie qui a battu la France. Les Bleus jouent la petite finale à 18h face à la Pologne, la Coupe du Monde de rugby, l'exploit du Japon, vainqueur ce matin de l'Irlande 19-12. Et puis le foot, début de la 7e journée de Ligue 1, 13h30, Lyon-Nantes. Stéphane Bern est supporter de Lyon, c'est ça Stéphane?
Oui, oui.
Et à 17h30, Bordeaux-Paris-Saint-Germain. Alors, le temps, c'est donc à vous. C'est une première à la radio.
Alors, la météo pour cet après-midi, un temps très ensoleillé sur la moitié sud du pays. Au nord, il faudra composer avec une alternance de nuages et de belles éclaircies. Les nuages seront d'ailleurs plus présents sur la Bretagne et près de la frontière belge où une averse sera possible. Les températures cet après-midi, 18 à Lille et à Saint-Val-la-Hougue dans la Manche, élu village préféré des Français 2019, 20 à Paris et Strasbourg, 22 à Bordeaux, 23 à Lyon, 25 à Toulouse et 28 à Nîmes.
Mais on dirait que vous avez fait ça toute votre vie,
oui,
hein, franchement. Eh bien, c'est parti.
Le journal inattendu sur RTL avec Stéphane Bern et Vincent Parisot.
Qu'on garde sous mon sang la grenade. Sous mon sang là, regarde, sous mon sang là,
grenade.
Regarde, sous mon sang là.
Alors, d'abord, vous chantez avec Clara Luciani, on va parler de ce choix, mais alors chanter, ça, vous ne l'avez jamais fait.
Ah, jamais,
encore.
Non, vaut mieux.
Non, c'est
vaut
vrai.
Mieux pour, non, alors autant au théâtre, je peux attirer un peu de monde, au théâtre Montparnasse, autant sur la scène de l'Olympia, ça va être plus dur. Ouais. Je suis allé l'autre jour pour lui remettre son disque de platine.
À Clara Luciani.
À Clara Luciani. C'est sa maison de disque qui me l'avait demandé. Et ce qui était très amusant, c'est qu'on lui avait dit à elle que je n'étais pas disponible. Et donc, elle fulminait, elle disait, mais c'est mon idole, je comprends
c'est
pas.
Vrai.
Oui. Et donc, c'était très bouleversant parce que quand je lui ai apporté son disque de platine devant, à la fin de son récital qui était incroyable à l'Olympia, elle a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Alors, franchement, là, alors qu'elle ne m'avait pas épousé.
Vous devez être en lévitation quand
mais
une
femme. Oui,
parce
qu'une femme
belle comme elle est. Donc.
Magnifique. Et elle chante. Son show est incroyable. C'est vraiment une artiste que j'aime. Et ça m'a amusé parce que vous savez, moi, ça fait 12 ans que je fais Secret d'Histoire. Mais
j'imagine pas qu'il y a des jeunes femmes qui grandissent comme ça en regardant les émissions. C'est le cas de Clara Luciani, c'est le cas d'Angèle aussi, qui, quand elles viennent dans le studio d'RTL pour À la bonne heure, tout d'un coup, elles viennent me voir et elles me disent, vous savez, j'ai grandi avec vos émissions, on vous adore.
Vous êtes leur idole.
Bah, ça devient bizarre parce que je, franchement, je suis pas un mec à la mode. Vous voyez,
Moi, quand même, si.
Non, être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte.
Mais on peut être à la mode et puis, effectivement, aimer le passé. Tiens, on va aller dans les années 50. Grand classique du cinéma, c'est un de votre choix. Un court extrait des Grandes Familles de Denis de la Patellière, avec là, Jean de Sailly et Jean Gabin.
François, reste, veux-tu ? À combien a-t-on tiré hier ?
800 000, monsieur.
Tu saisis la différence ?
Je peux vous assurer que ces lecteurs iront en diminuant si nous restons dans notre formule actuelle. Tout est désuet, périmé. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de lire. Ce qu'il leur faut, c'est des titres courts, des photos chocs.
Ce genre-là, par exemple.
Monsieur François, on vous demande à l'imprimerie.
Ce qu'il leur faut, c'est des titres courts, des photos chocs. 1958.
C'est fou, hein.
Dialogue prémonitoire, quand même.
Ah oui. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est la politique du clic. C'est-à-dire que les gens lisent moins les journaux, prennent moins le temps de la réflexion. On est dans l'immédiateté. Donc, il faut créer du buzz. Et du buzz, ça crée du clic. Du clic, ça donne ça apporte de l'argent aux médias, sans vérifier les informations. Les gens écrivent sur moi des choses sans jamais. Alors, moi,
qu'est-ce qu'on écrit sur vous ?
Non, par exemple, cet été, j'apprends que j'ai un cancer et ensuite que je suis ruiné. Ah. Ça m'a pas fait plaisir. Non, surtout j'imagine. Pas tellement à ma famille, vous voyez, parce que eux croient ce qu'ils peuvent lire dans les journaux. Et donc j'ai fait un tweet un peu vengeur en disant je vous souhaite beaucoup de clics, mais si vous voulez. C'est vrai que c'est jamais très agréable de dire n'importe quoi.
Vous avez commencé dans la presse écrite.
Oui.
Voici Jour de France, Madame Figaro.
Alors, voici ancien au début, c'était quand c'était un magazine très chic.
Oui, c'est ça.
Maintenant le titre est devenu autre chose.
Mais vous avez
commencé au Figaro. J'ai commencé au Figaro. Mmh. J'y suis depuis 30 ans d'ailleurs. Mais je vois les choses changer, évidemment.
La
mais
place de l'image.
Pas, oui, on peut plus. De toute façon, il ne faut pas que la presse soit fossilisée non plus, sinon elle meurt. Mais ça va un peu vite, si vous voulez. Il faut garder le temps de la réflexion. Peut-être, moi, j'aime lire, donc j'ai besoin de prendre du recul et de comprendre des choses. Mais ce que j'aime, au fond, c'est la presse écrite. La radio, c'est un média. J'ai commencé ici aussi, avec les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et puis ensuite, j'ai fait un passage à la concurrence et je suis revenu pour À la bonne heure depuis bientôt 10 ans. Mais la télé aussi, j'ai fait à peu près tout. TF1,
Canal+. Vous avez fait tout. Vous avez d'ailleurs commencé la télé en 1989. Si.
La monarchie est-elle souhaitable pour la France ? Pour en débattre, à ma droite, Stéphane Bern, journaliste à Jour de France, et face à lui, Jean-Michel Blanquer, président de l'association pour la déclaration du 26 août 89. Vous nous direz dans un instant ce que cela signifie exactement. Alors, Stéphane Bern, est-ce bien raisonnable de dire en 1989, au moment où nous célébrons le bicentenaire de la Révolution, eh bien la France mériterait un roi ?
Je crois que ce qui est important de dire, c'est que le système monarchique est sans doute le système qui est à la fois le plus traditionnel, le plus ancien, également le plus moderne.
Alors, bon, là, c'était avec Jean-Claude Bourret sur la 5.
Oui. Mais ce qui est fou, c'est que face à Jean-Michel Blanquer, qui est actuel ministre de l'éducation nationale, d'ailleurs, on s'est très bien entendu, on était d'accord sur le fond, qui est vraiment la démocratie est une chose essentielle. Mais c'est drôle parce que je le revois, je l'ai vu l'autre jour, on est allé pour le loto du patrimoine donner un chèque à la maison Rosa Bonheur à Catherine Braul à Thomery, près de Fontainebleau. Il était là, puisque c'était l'opération entre la culture et l'éducation nationale pour initier les jeunes à l'amour du patrimoine. Et il a changé, et moi aussi. Enfin, peut-être.
Alors, vous avez moins changé que lui, si je peux me permettre.
Non, mais parce qu'il a perdu ses cheveux.
Ah, bah ça, je peux confirmer qu'effectivement, c'est un handicap.
Ans, regardez la vidéo sur Internet, c'est drôle. Moi, ce qui est amusant, alors, je suis toujours obligé de me dédouaner sur le fait de la monarchie, pas la monarchie. Écoutez, on vit dans une république monarchique, et à Luxembourg, chez moi, qui est mon autre pays, nous sommes une monarchie républicaine.
Alors là, on entendait vos débuts à la télé, mais c'est vrai que c'est l'accident, c'est la mort de Diana qui va vraiment tout changer. Jean-Louis Remigneux, le producteur, dit que c'est là que vous êtes né médiatiquement. C'est ça ?
Oui, c'est pas faux. Ce jour-là, vous avez 6 millions de personnes qui vous regardent, le journal de Claire Chazal. Vous essayez d'être sobre, vous êtes touché, évidemment, parce que moi, toute la journée, j'étais bouleversé par la mort de Diana. Je l'avais rencontrée, en plus, quelques semaines auparavant. Et puis ensuite, il y a les obsèques que vous commentez. C'était à l'époque avec Charles Villeneuve et Jean-Claude Narcy sur TF1. Et donc, vous êtes vu aussi par des millions de téléspectateurs. Et au fond, c'était un peu mon rêve aussi de remplacer Léon Zitrone à la télévision, parce que je trouvais que parfois il avait un style un peu désuet, et j'avais envie
d'être plus simple,
proche des gens.
À la cour d'Angleterre, vous êtes chez vous, membre de l'ordre de l'Empire britannique, vous êtes le seul non britannique à l'avoir.
Le seul non britannique à qui la reine l'a remis personnellement. Et donc ça, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux.
Tiens, au sujet de Buckingham, la semaine dernière, Géraldine Nakache était à votre place. Ben tiens, voilà ce qu'elle vous a demandé.
Bonjour Stéphane Bern, c'est Géraldine Nakache. J'espère que vous allez bien. J'avais une question. Ma question, c'était, j'avais envie que vous me disiez, mais vraiment franco, si vous étiez plus Meghan Markle ou Kate Middleton. Et comme en plus, j'ai une double question, Stéphane. Comme en plus, vous allez venir là, 3 jours après nous avoir reçus, Leïla et moi, dans votre émission. Du coup, je double la question. Vous êtes plus Leïla ou Géraldine?
Je pense que on a, comme Janus, on a deux visages. Je suis à la fois Géraldine et Leïla, et d'abord leur film, J'irai où tu iras. Moi, elles peuvent faire n'importe quoi, j'irai toujours où elles iront. Le film est fabuleux.
Il est très, vous avez pleuré, vous aussi?
J'ai pleuré. J'ai été très touché par ce film, vraiment. Je suis à la fois Kate, parce que Kate représente l'avenir de la monarchie, elle est parfaite, elle s'est coulée dans le moule, mais mieux que n'importe qui. Et Meghan,
c'est le petit grain de sable.
Elle n'a pas les codes. Et elle fait exprès. Au lieu de dire « Ladies and gentlemen », quand elle commence un discours, elle dit « Hi ». Vous savez, à l'américaine, elle dit « Salut ».« Salut ». Vous voyez, là, je viens de voir une dépêche. Elle est en Afrique du Sud en ce moment. Elle est allée, il y a eu un féminicide, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Immédiatement, elle est allée voir la victime, la famille, etc. Cette fille, elle a quelque chose d'incroyable. Mais j'aime bien Kate, parce qu'elle est parfaite. C'est l'image idéale de la princesse.
Donc les deux, mon capitaine.
Les deux, voilà, c'est les deux facettes de la même médaille.
Allez, on se retrouve avec Stéphane Bern dans un instant. Stéphane, rédacteur en chef de ce journal inattendu. On va parler patrimoine, évidemment. À tout de suite.
Le journal inattendu de Stéphane Bern avec Vincent Parisot sur RTL.
Le soleil s'endort sur ses chaînes, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage et de l'or pour se perdre. I need you so.
Julien Doré, Paris Seychelles, c'est dans la playlist de Stéphane Bern. Vous adorez?
J'adore Julien Doré.
Tout.
J'aime tout. Ses chansons, sa manière d'être sur scène, ce qu'il est dans la vie aussi. Je trouve qu'il est original.
Vous vous souvenez de la manière dont il a émergé?
Oui, absolument. Alors oui, la nouvelle star, etc. Ouais. Mais il a une vraie originalité, une vraie personnalité. Dans la jeune génération, c'est quelqu'un qui me fascine. Il a une présence scénique. Je suis allé le voir aux Folies Bergères, mais à un moment on le cherchait, il saute. J'ai fait des émissions avec lui tellement drôles que non, il m'enchante.
Tiens, une page de pub gratuite pour vous, Stéphane.
Sauver les trésors en péril de notre patrimoine. Ce rêve devient réalité grâce à vous.
Voir ce château qui reprend vie, mais c'est extraordinaire.
Suite à l'appel aux dons de la mission patrimoine, pas moins de 120 monuments font aujourd'hui peau neuve sur tout le territoire.
On a eu une chance inouïe.
Pour continuer à soutenir le patrimoine, rendez-vous à partir du 2 septembre avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine.
Voilà, le loto du patrimoine, maintenant c'est des tickets à gratter, c'est ça?
En ce moment, oui. Le tirage a eu lieu le 14 juillet.
L'année prochaine.
Maintenant, il y a les tickets à gratter à 3 euros, parce que j'avais entendu les critiques, on disait que 15 euros c'était cher. Cela dit, on gagne beaucoup plus. Les gens ont gagné 1,5 million. Et la Française des Jeux, on a vendu 12 millions de tickets l'année dernière à 15 euros. Cette année, ils en ont mis 20 millions de tickets en vente. J'espère qu'on fera aussi bien, voire mieux que l'année dernière. On a sauvé à ce jour 140 monuments. C'est fascinant de se dire qu'au moins j'aurais peut-être servi à une chose dans ma vie.
Pas que ça, mais effectivement,
ça va rester. Il ne restera rien. Voilà, les émissions de télé, la radio, les journaux, même les livres, voyez-vous, les livres chez un bouquiniste dans 100 ans, on dirait c'était qui celui-là?
Sauvons notre patrimoine, plomb, c'est l'éditeur Stéphane Bern. Il vient de sortir.
Donc peut-être il peut durer encore quelques semaines. Mais c'est vous dire que les monuments qu'on sauve, d'abord je le fais pour les Français et surtout pour nous réconcilier avec les collectivités territoriales. Et les
territoire. Le patrimoine, c'est la richesse de nos villages.
Vous dites, c'est le pétrole de la France.
Bien sûr, c'est notre richesse, c'est ce qui, le passé peut nous enrichir demain. Mmh. Et surtout, là où les gens se sentent délaissés, où on voit les gilets jaunes dans les, sur les ronds-points, parce que les gens se sentent abandonnés. Et moi, je suis du côté des ruraux, mmh. avec à la fois les paysans et avec ceux qui ont envie d'y vivre, mais d'y vivre mieux. Les pierres nourrissent les hommes. Les pierres peuvent donner envie, peuvent nous aider à
les pierres
à
nourrissent
sauver.
Les hommes, les pierres peuvent aider les hommes à se remettre sur pied. On est en ligne avec quelqu'un que vous avez voulu mettre en lumière avec son association Acta Vista. Il est à Marseille. Bonjour Vincent Nicolet.
Bonjour Vincent, bonjour Stéphane.
Bonjour Vincent.
Directeur général d'Acta Vista. Dites-nous ce que c'est précisément. C'est le mariage de la rénovation du patrimoine et de l'aide aux personnes en difficulté qui se sont éloignées du monde du travail, c'est ça ?
Exactement. Stéphane vient de dire qu'il participait à sauver le patrimoine. C'est vrai, et le patrimoine peut aussi sauver des hommes et des femmes. C'est ce que porte en partie notre association depuis plus de 15 ans, puisque nous utilisons la restauration de monuments historiques prestigieux comme un support pour former, qualifier et accompagner vers l'emploi des hommes et des femmes en difficulté.
C'est assez formidable, parce qu'en plus, j'imagine que travailler sur un chantier prestigieux, ça doit être très bon pour la confiance en soi, la confiance de ces personnes qui l'ont perdu, cette confiance.
C'est exactement ça. En fait, on s'aperçoit quand on a le courage de confier. Alors attention, il faut faire les choses comme il faut, évidemment. Nos encadrants ont la connaissance et l'expérience des monuments historiques. Mais on prend la patience et la pédagogie pour confier ce qu'il y a de plus prestigieux aux personnes les plus en difficulté. Et là, effectivement, vous l'avez dit, on irradie ces personnes d'une confiance et d'une fierté qui leur permettent de vraiment se bâtir un avenir.
Et c'est une véritable formation qui ouvre vers un retour à l'emploi.
Exactement.
Voilà, et puis, ils ne sont jamais en retard. Ouais. Et ça, Vincent peut vous le raconter. Et d'autre part, j'aime la devise de Acta Vista. Les hommes rêvent les pierres et les pierres révèlent les hommes. Oui. Parce que c'est le patrimoine nous enrichit intellectuellement, humainement, et ça donne vraiment un métier à tous ces gens qui sont peut-être à qui on offre une deuxième chance. Et je trouve ça formidable. Parce que le travail d'Acta Vista m'impressionne comme les chantiers de bénévoles Rempart. Enfin voilà, il y a des gens qui font un travail formidable pour le patrimoine.
Alors évidemment, allez vite voir leur site actavista.fr. Merci de ce coup de fil, forcément très rapide. En tout cas, vous tenez à soutenir. Ce genre
j'adore ce que fait Vincent Nicolet et la présidente aussi d'Acta Vista. Ce sont des gens extraordinaires et très dévoués, formidables.
Bon, ce qu'on va faire, c'est marquer une pause. Puis dans un instant, vous faire une petite surprise.
Ah.
Vous allez adorer.
C'est vrai.
Ah ben, moi, je sais que je vais adorer, mais alors vous, j'en suis absolument certain.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Stéphane Bern avec Vincent Parisot sur RTL.
Alors Stéphane, donc on a une petite surprise pour vous. Quelqu'un que vous connaissez bien, qui nous passe un petit coup de fil, qui est en ligne. Ah bah, je vous propose donc de l'écouter tout de suite.
Acropolis, adieu, adieu l'amour. Bonjour Vincent, bonjour mon Stéphane, bonjour à tous.
Bonjour Mireille.
Bonjour Mireille, comment ça va Mireille Mathieu?
Stéphane, j'ai...
C'est le patrimoine Mireille Mathieu,
Stéphane,
ça pour le coup. Oui.
Et ton autoportrait, c'est tout à fait ça.
Ouais.
Mais il y a une chose que je tenais à dire, c'est que tu es fidèle, que tu n'as pas souligné, mais moi je tenais à le souligner, que tu es fidèle en amitié. Que tu crois à tout ce que à tes amis, tu es auprès d'eux, tu vas toujours plus loin et toujours plus haut.
Mireille, c'est une longue amitié que vous entretenez avec Stéphane.
Moi, depuis très longtemps, enfin quand il a commencé, il officiait, si je puis dire, sur notre radio, et après une amitié, une admiration, une affection est née.
Ouais. Alors, je crois que vous allez bientôt le retrouver, le 15 octobre.
Oui, le 15 octobre, je viens à la bonne heure et surtout le voir au théâtre.
Ouais,
parce que je l'ai déjà vu au théâtre à côté
c'est
de.
C'est vrai. Tu es venu avec ta maman et ça m'avait tellement touché.
Avec
après,
ma petite maman, oui.
Exactement. Et puis on va se voir, on va faire une émission ensemble pour les 130 ans.
Voilà, sur
les
France
130
2.
Ans de, les 130 ans de la Tour Eiffel sur France 2. Et il y aura évidemment Mireille Mathieu. Et c'est un monument.
Non,
elle est comme la Tour Eiffel pour moi, mais en plus charnel, ce qui est heureusement, parce que je peux davantage parler à Mireille qu'à la Tour Eiffel. Mais c'est formidable.
Non,
c'est,
mais je suis vraiment touché de vous entendre, Mireille. Vous allez sortir un disque. Double album.
Oui, un double album de CD cinéma.
Voilà.
Sur les chansons de cinéma, Un homme-femme, Paris en colère, que je vais interpréter pour les 130 ans de la Tour Eiffel, et beaucoup d'autres, et beaucoup de bonus.
Oui, et donc Un homme et une femme, ce grand classique de Francis Lai, avec Francis Lai.
Comme un envoi, balabala, chante tout bas.
Voilà, petit extrait. Vous voyez, ça,
j'adore.
C'est...
Mais vous savez, je suis très fan de. Je suis très fan de la chanteuse. Je suis très fan de la femme, Mireille Mathieu. C'est, elle est très fidèle en amitié. C'est une grande professionnelle. Quand elle arrive sur un plateau, elle dit bonjour à tout le monde. Ouais. Elle travaille. C'est pas ces petits jeunes qui ont débuté dans la chanson et qui méprisent tout le monde, qui se prennent pour des stars avant de l'être.
Et puis Mireille c'est sincère. Est une vraie star on et voit simple. Bien que c'est que ce n'est pas joué. Oui, Mireille Mathieu, vous êtes une vraie star. Et juste une question sur ce duo avec Francis Lai qui nous a quittés en novembre dernier. Vous l'aviez enregistré quand ?
Il y a fort longtemps. Francis Lai a été mon premier accordéoniste quand j'ai débuté en 1965, enfin en 66, je l'ai rencontré. Oui. Et après, donc, il a composé Un homme et une femme en tournée quand il était en tournée avec moi. Mmh. Et puis après, bon, on a enregistré ensemble. J'ai chanté Francis Lai, j'ai fait un album avec Francis Lai, un CD. Mmh. Et c'est un plaisir, il nous a quittés. J'étais vraiment très triste parce que c'était un très grand. Mmh. Un très grand compositeur.
Donc c'est le premier extrait de cet album. Mireille Mathieu, merci beaucoup de ce coup de fil. Je voudrais pas vous quitter quand même.
On ira tous au théâtre parce que c'est merveilleux.
Merci, je m'en occupe.
Merci de m'avoir permis de lui dire mon admiration et toute mon affection.
Eh ben merci à vous de ce coup de fil. Hein. Vous avez toute l'admiration et l'affection de
Mireille
Mathieu.
J'adore Mireille Mathieu.
Rendez-vous donc sur scène. Mireille Mathieu sera dans la salle au Théâtre Montparnasse dans Vous n'aurez pas le dernier mot à partir du 14 octobre. On vous retrouve évidemment dès lundi pour cette émission spéciale.
Émission spéciale en hommage au président Jacques Chirac. Mmh. Et puis mardi en direct pour à la bonne heure tous les jours sur RTL.
Et je vous offre le double album de Mireille Mathieu. Qu'on embrasse. Beaucoup. Merci pour ce coup de fil surprise. Merci beaucoup. Tout de suite sur RTL, vous allez retrouver Jean-Alphonse Richard pour Confidentiel, consacré aujourd'hui à Elizabeth Taylor. Vous ne l'avez pas connue, Elizabeth
non.
Taylor.
Si, j'ai fait un voyage avec elle chez le roi de Thaïlande. C'était incroyable, avec son dernier mari, Larry Fortensky. Très drôle.
Il connaît tout le monde.
Le coiffeur était plus star qu'elle. Ça m'a beaucoup amusé.
Dans un instant, Elizabeth Taylor, vue par Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup, Stéphane. Ciao.
RTL, le journal inattendu.